Chapitre 11. Mais ce jour-là, ils connurent d'autres ombres, d'autres épouvantes. Désormais, le sens tragique de la vie les occupait tous deux, et en vain s'efforçaient-ils de vaincre cette corporelle tristesse, où de seconde en seconde leurs esprits se faisaient plus lucides et plus inquiets. Ils se tenaient par la main comme s'ils avaient cheminé dans l'obscurité ou dans des lieux périlleux. Ils parlaient rarement. De temps à autre, ils se regardaient dans les prunelles, et les yeux de l'un versaient dans les yeux de l'autre une onde confuse qui n'était que l'horreur et l'amour débordant. Mais leur cœur ne s'allégeait pas. « Nous continuons ?»« Oui. » Ils se tenaient par la main étroitement, comme s'ils eussent fait une étrange épreuve, résolu d'expérimenter jusqu'à quelle profondeur pouvaient atteindre les forces jointes de leur mélancolie. À Dolo, les roues firent craquer les feuilles de châtaignier qui recouvraient le chemin, et les grands arbres rouillés flamboyèrent sur leurs têtes comme des rideaux de pourpre qui s'incendieraient. Plus loin, la Villa Barbariga leur apparut, seule et désolée au milieu de son jardin dénudé, rougeâtre avec les traces des anciennes peintures sur les crevasses de sa façade, tels des restes de cinabre dans les rides d'une vieille femme galante. Et à chaque regard, les lointains de la campagne s'atténuaient davantage et bleuissaient comme les choses qui se submergent. « Ah, voici Stra !» Ils descendirent devant la villa des Pisani, entrèrent. Accompagnés par le gardien, ils visitèrent les appartements déserts. Ils entendirent le bruit de leurs pas sur le marbre qui les reflétait, l'écho dans les voûtes historiées, le gémissement des portes s'ouvrant et se refermant, la voix fastidieuse réveillant les souvenirs. Les pièces étaient vastes, tendues d'étoffes passées, ornées dans le style de l'Empire avec les emblèmes napoléoniens. Dans l'une, les murs étaient couverts par les traits portraits des Pisani, procurateurs de Saint-Marc, dans une autre par les médaillons en marbre de tous les doges, dans une autre par une série de fleurs peintes à l'aquarelle et placées dans des cadres délicats, pâles comme ces fleurs desséchées que l'on met sous verre en souvenir d'un amour ou d'une mort. Dans une autre, la Foscarina dit en entrant « Col tempo, oh, ici encore !» Il y avait, sur une console, une traduction en marbre de la figure de Francesco Torbido, rendue plus horrible par le relief, par la subtile application du statuaire à distinguer l'un de l'autre avec le ciseau chaque tendon, chaque sillon, chaque ride. Et aux portes de la salle apparurent les fantômes des femmes couronnées qui avaient caché leur infortune et leur dépérissement dans cette demeure ample comme un palais et comme un monastère.
Marie-Louise de Parme, en 1817, expliquait la voix fastidieuse.
Estelio, ah oui, la reine d'Espagne, l'épouse de Charles IV, la maîtresse de Manuel Godoy, oh, celle-là entre toutes m'attire. Elle est venue ici au temps de l'exil. Savez-vous si elle y a résidé avec le roi et avec le favori?
Mais le gardien ne savait que ce nom et cette date.
« Pourquoi vous attire-t-elle ? » demanda la Foscarina. « Je ne sais rien, moi, de son histoire. »«
Mais sa fin, les dernières années de sa vie d'exil, après tant de passions et tant de luttes, sont vraiment d'une poésie extraordinaire. » Et il lui dépeignit cette figure violente et tenace, le roi faible et crédule, le bel aventurier qui avait joui du lit de la reine et avait été traîné sur le pavé par la foule en furie, les agitations de ces trois existences liées par le sort et emportées dans la volonté de Napoléon comme des pailles dans l'ouragan, le tumulte d'Aranjuez, l'abdication, l'exil. Ce Godoy, le prince de la paix, comme le roi l'avait appelé, suivit les souverains dans l'exil fidèlement. Il resta fidèle à sa royale amante et elle à lui. Et toujours ils vécurent ensemble sous le même toit, et jamais Charles ne soupçonna la vertu de Marie-Louise, et jusqu'à sa mort, il couvrit les deux amants de sa bénédicité inaltérable. Imaginez leur séjour en ce lieu, imaginez ici un tel amour sorti sain et sauf d'une si terrible orage. Tout était brisé, abattu, réduit en poudre par la force destructeur. Bonaparte avait passé par là, il n'avait pas étouffé sous la ruine cet amour déjà chenu. La fidélité de ces deux violents ne m'émeut pas moins que la crédulité du roi débonnaire. Ils vieillirent ainsi, figurez-vous. La reine mourut d'abord, puis le roi, et le favori, moins âgé qu'eux, vécut encore quelques années une vie errante. Cette chambre est celle de l'empereur, dit solennellement le gardien en ouvrant les deux battants d'une porte. Dans la villa du doge Alvisé, la grande ombre semblait omniprésente. Les aigles impériales, signe de sa puissance, dominaient d'en haut toutes ses pâles reliques. Mais dans la chambre jaune, cette ombre occupa le vaste lit, se coucha sous le baldaquin, entre les quatre colonnes surmontées par les flammes d'or. Le sigle formidable au milieu de la couronne de laurier resplendissait sur le chevet. Et cette espèce de couche funèbre se prolongeait dans le miroir terni entre deux victoires qui soutenaient les candélabres. L'empereur a couché dans ce lit ? Demanda le jeune homme au gardien qui lui montrait sur la muraille le portrait du condottiere et emmantelé d'hermine, lauré et sceptre ridiculement comme au sacre béni par Pie VII. Cela est-il certain ? Il s'étonnait de n'avoir pas éprouvé ce trouble que donnent aux cœurs ambitieux les traces du héros, cet énergique sursaut qu'il connaissait bien. Ce qui rendait obscur son esprit, c'était peut-être l'odeur du renfermé, la moisissure des vieilles étoffes et des matelas, la surdité de ce silence où le grand nom restait sans aucune résonance, tandis que le rangement d'un taret y persistait d'une façon si distincte que Stelio croyait l'avoir à l'intérieur de l'oreille. Il souleva un bord de la courte poêle jaune et il le laissa retomber aussitôt, comme si, dessous, il eût aperçu l'oreiller plein de vermine. « Allons-nous-en, sortons !» dit la Foscarina qui, par les vitres de la fenêtre, avait regardé le parc où le soleil oblique faisait alterner ses bancs de fauve avec les zones glauques de l'ombre. « On ne respire pas ici !» Effectivement, l'air y manquait comme dans une crypte. « Maintenant, poursuivit la voix fastidieuse, nous passons à la chambre de Maximilien d'Autriche, qui avait placé son lit dans le cabinet d'Amélie de Beauharnais. » Ils traversèrent la pièce dans une lueur vermeille. Le soleil frappait sur un canapé cramoisi, irisait les gouttes de cristal d'un lustre gracile, allumait sur la muraille le rouge des raies perpendiculaires. Stelio s'arrêta sur le seuil, se retourna, évoqua dans cette splendeur sanglante la figure pensive du jeune archiduc aux yeux bleus, la belle fleur de Habsbourg tombée sur la terre barbare un matin d'été. « Pardon, partons !» lui supplia de nouveau la Foscarina qui le voyait s'attarder. Elle fuyait à travers le salon immense, peint à fresque par Tiepolo, tandis que derrière elle, le bronze corinthien de la grille rendait en se fermant un son clair comme celui d'une clochette qui se propageait en longues vibrations dans la concavité de la voûte. Elle fuyait, éperdue, comme si tout le palais menaçait de s'écrouler sur elle et que la lumière fût sur le point de manquer et qu'elle craignit de se trouver seule dans les ténèbres avec ses fantômes de malheur et de mort. Et lui, marchant dans l'air agité par cette fuite, entre ces murailles lourdes de reliques et de spectres, derrière l'actrice fameuse qui, sur toutes les scènes du monde, avait simulé la fureur des passions mortelles, les efforts désespérés de la volonté et du désir, le conflit violent des sorts superbes, il perdait la chaleur de ses veines comme s'il eût cheminé dans une brise froide, sentait son cœur se glacer, son courage faiblir, sa raison de vivre perdre toute force et se relâcher ses attaches avec les personnes et avec les choses, et chanceler et se dissiper les magnifiques illusions qu'il avait données à son âme pour l'exciter à se surpasser elle-même et à surpasser son destin. « Sommes-nous encore vivants ?» demanda-t-il quand ils furent à l'air libre dans le parc loin de l'affreuse odeur. Et il prit la Foscarina par les mains, la secoua un peu, la regarda au fond des prunelles, essaya de sourire, puis il l'entraîna vers le soleil sur l'herbe du pré. Quelle tiédeur sens-tu comme l'herbe est bonne ? Il ferma les yeux à demi pour recevoir sur ses paupières les rayons lumineux subitement repris par la volupté de vivre. Elle fit comme lui, séduite par le plaisir de son ami. Et entre ses cils, elle regardait cette bouche fraîche et sensuelle. Ils restèrent ainsi quelques instants sous la caresse du soleil, les pieds dans l'herbe, les mains dans les mains, et au milieu du silence, ils sentaient palpiter leurs veines comme les ruisseaux qui se font plus rapides quand vient le dégel au printemps. Elle repensa aux bons Euganéens, aux villages rosés comme les coquilles fossiles, aux premières gouttes de la pluie sur les feuilles nouvelles, à la fontaine de Pétrarque, à toutes les gentilles choses. La vie pourrait encore être douce, soupira-t-elle, d'une voix qui fut le miracle de l'espérance prête à renaître. Le cœur de l'aimé fut comme un fruit qu'un rayon miraculeux mûrirait tout à coup. La bonté et le délice inondèrent son âme et sa chair. Une fois encore, il jouit de l'instant présent comme si c'était le dernier de sa vie. L'amour fut exalté au-dessus du destin. « Tu m'aimes, dis !» Elle ne répondit pas. Mais elle ouvrit de grands yeux et elle eut dans le cercle de ses iris l'immensité de l'univers. Jamais l'amour immense ne fut signifié d'une façon plus puissante par une créature terrestre. Elle est douce la vie avec toi, pour toi, hier comme demain. Oh, il paraissait enivré d'elle, du soleil, de l'herbe, du ciel divin, comme de choses jamais vues, jamais possédées. Le prisonnier qui, à l'aube, sort de la prison étouffante, le convalescent qui regarde la mer après avoir regardé la mort, sont moins enivrés qu'ils ne l'étaient. Veux-tu que nous partions ? Veux-tu que nous laissions derrière nous la mélancolie ? Veux-tu que nous allions dans les pays qui n'ont pas d'automne ? Il est en moi, l'automne, et partout je l'emporterai avec moi, pensa-t-elle. Mais elle souriait de ce faible sourire qui voilait sa souffrance. C'est moi qui partirai, qui disparaîtrai, qui m'en irai mourir au loin. Oh, mon amour !» Durant ces 2 minutes de relâche, elle n'avait réussi ni à vaincre sa tristesse, ni à ressusciter son espérance. Mais pourtant, sa peine était devenue plus molle, avait perdu toute âcreté, toute rancune. « Veux-tu que nous partions ?»«
Partir, toujours partir, errer par le monde, s'en aller au loin, » pensait la femme nomade. « Jamais de répit, jamais de repos. L'anxiété de la course n'est pas apaisée encore et déjà la trêve expire. Tu voudrais me consoler, mon ami, et pour me consoler, tu me proposes d'aller au loin une fois de plus ?» alors que depuis hier seulement, je suis rentré dans ma maison. Tout à coup, ses yeux furent comme une source jaillissante. Laisse-moi dans ma maison encore un peu, et toi aussi reste si cela t'est possible. Plus tard, tu seras libre, tu seras heureux. Tu as devant toi un temps si long, tu es jeune. Tu obtiendras ce qui t'est dû. Pour t'avoir attendu, on ne te perdra pas. On ne te perdra pas. Ses yeux avaient deux visières de cristal qui brillaient au soleil, presque fixes dans ce visage fiévreux. Ah, toujours la même ombre, s'écria Stelio, fiévreux, avec une impatience qu'il ne put contenir. Mais à quoi penses-tu? Que crains-tu? Pourquoi ne me parles-tu pas de ce qui t'afflige? Expliquons-nous, enfin! Qui m'attend?
Elle frémit d'épouvante à cette question qui lui sembla inattendue et nouvelle, bien que répétant ses propres paroles. Elle frémit de se retrouver si près du péril, comme si, en cheminant à travers cette bonne herbe, un précipice fût ouvert sous ses pieds. Mais qui m'attend? Et voilà que soudain, là, dans ce lieu étranger, sur cette belle prairie, à la fin du jour, après toutes ces apparitions de spectres sanglants ou exsangues, surgissait une vivante forme de volonté et de désir qui l'emplissait d'une terreur autrement forte. Voilà que, soudain, par-dessus toutes ces figures du passé, se dressait une figure d'avenir, et de nouveau, l'aspect de la vie se transformait, et le bien de ce brave répit était déjà perdu, et cette bonne herbe sous les pieds n'était plus rien.
Oui, nous causerons, si vous le voulez, mais pas à présent.
Sa gorge serrée laissait à peine passer la voix, et elle tenait son visage un peu relevé pour que les cils pussent arrêter les larmes.
« Mais ne sois pas triste, ne sois pas triste !» supplia le jeune homme, dont l'âme était suspendue à ses cils humides comme ses larmes qui ne coulaient pas. « Tu as mon cœur dans ta main, je ne te manquerai pas, mais pourquoi te tourmentes-tu? Je t'appartiens !»
Pour lui aussi, Donatella était là, debout, avec ses reins arqués, avec son corps agile et robuste de victoire sans aile, tout armé de sa virginité, attirante et hostile, prête à lutter et à se rendre. Mais son âme était suspendue aux cils de l'autre comme ces larmes qui voilaient les pupilles où il avait vu l'immensité de l'amour.
« Foscarina !»
Enfin, les gouttes chaudes se versèrent, mais elle ne les laissa pas couler le long de ses joues. Par un de ces gestes qui souvent naissaient de sa douleur, avec la grâce imprévue d'une aile qui se dégage, elle les arrêta, s'en mouilla les doigts, s'en répandit l'humidité sur les tempes, sans les essuyer. Et tandis qu'elle gardait ainsi son pleur sur elle-même, elle voulut sourire.
« Pardonnez-moi, Stelio, je suis si faible. »
Éperdument, alors il aima les stries délicates qui rayonnaient du coin des yeux vers les tempes humides et les petites veines sombres qui rendaient les paupières semblables aux eaux violettes et l'ondulation des joues, et le menton effilé, et tout ce qui semblait touché par le mal d'automne, toute l'ombre répandue sur ce passionné visage. Ah, ces doigts chéris, beaux comme les doigts de Sophia, permets que je te les baisse, tout mouillés encore. Et dans sa caresse, il l'entraînait à travers le pré sur une zone d'or vert. Léger, le bras passé sous le bras de sa compagne, il baisait une à une les phalanges de ses doigts plus fins que les tubéreuses non épanouies. Elle frissonnait. Il la sentait frissonner à chaque touche de ses lèvres. Il sent le sel. « Prends garde, Stelio, quelqu'un peut nous voir. »« Mais il n'y a personne. »« Mais là-bas, dans les serres. »« Mais on n'entend pas une voix, écoute. »« Silence étrange, l'extase. »« On entend la chute d'une feuille. »« Et ce gardien, oh, il est allé à la rencontre de quelque autre visiteur. »« Est-ce qu'il en vient ici ?» Oui, l'autre jour, Wagner y est venu avec Daniela von Bülow. Ah oui, la nièce de la comtesse d'Agou, de Daniel Stern. Entre nous, ces fantômes, quel est celui avec qui s'est entretenu le grand cœur malade? Qui sait? Oh, avec lui-même, avec lui seul, peut-être. Peut-être. Regarde les vitrages des serres, comme ils brillent, ils semblent irisés. La pluie, le soleil et le temps les peignent ainsi. Ne dirait-on pas qu'ils s'y mirent un lointain crépuscule? Tu t'es peut-être arrêté un jour sur le quai Pesaro à regarder la belle pentafore des évangélistes. Si tu levais les yeux, tu voyais les verrières du palais peintes merveilleusement par les intempéries. Mais... tu connais tous les secrets de Venise, toi? Oh, pas tous encore. Quelle chaleur ici! Regarde comme les cèdres sont grands. Il y a un nid d'hirondelles suspendu à la poutre, là. Elles sont parties tard, cette année, les hirondelles. Est-ce vrai qu'au printemps, tu me conduiras sur les monts de Ganéen? Oui, Fosca, je le voudrais. Mais le printemps est si loin. Mais la vie peut encore être douce. Mon rêve. Orphée avec sa lyre tout vêtue de lichen. Ah, quelle année de rêve. Nul n'y passe plus. De l'herbe, il n'y a pas une seule trace humaine. Mais non, Deucalion avec les pierres, Ganymède avec l'aigle, Diane avec le cerf, toute la mythologie. Que de statues, mais celles-ci au moins ne sont pas exilées. Les vieilles charmilles les protègent encore. Mais ici se promenait Marie-Louise de Parme entre le roi et le favori. De temps à autre, elle s'arrêtait pour écouter le bruit des cisailles qui taillaient les charmilles en forme d'arceau. Elle laissait tomber son mouchoir parfumé de jasmin et Don Manuel Godoy le ramassait d'un mouvement svelte encore, en dissimulant la douleur que lui donnait à la hanche le geste de se baisser. Un souvenir des outrages subis dans les rues d'Aranjuez entre les mains de la canaille. Et comme le soleil était tiède et que le tabac était excellent dans la tabatière émaillée, le roi, sans couronne, disait avec un sourire « Certes, notre cher Bonaparte est moins bien à Sainte-Hélène. » Mais le démon du pouvoir, de la lutte et de la passion se réveillait au cœur de la reine. « Regarde ces roses rouges !»« Elles brûlent. On dirait qu'elles ont dans la corolle un charbon allumé. Elles brûlent vraiment. » Le soleil s'empourpre. C'est l'heure des voiles de Chioggia sur la lagune. « Cueille-moi une rose. La voici. Oh !» Elle s'effeuille. En voici une autre. Oh, elle s'effeuille. Mais elles sont toutes sur le point de mourir. Celle-ci, peut-être non. Alors ne la cueille pas. Regarde, elles se font de plus en plus rouges. le velours de Bonifacio. Tu te rappelles, oh, c'est la même puissance.
La fleur interne du feu, mais quelle mémoire! Entends-tu, on ferme les portes des serres.
Ah, il est l'heure de s'acheminer vers la sortie.
Déjà, l'air commence à fraîchir. Tu as froid?
Non, pas encore.
Tu as laissé ton manteau dans la voiture?
Oui.
Ben, nous attendrons à Dolo le passage du train. Nous rentrerons par le train à Venise.
Oui.
Nous avons encore le temps.
Oh, qu'est-ce que cela regarde?
Oh, je le sais.
Quelle odeur amère, un bosquet de buis et de charmilles.
Oh, c'est le labyrinthe.
Il était clos par une grille de fer toute rouillée entre des pilastres qui portaient deux abords à cheval sur des dauphins de pierre. De l'autre côté de la grille, on apercevait que le commencement d'un sentier et une espèce de taillis enchevêtré et dur, une apparence mystérieuse et touffue. Au centre du dédale se dressait une tour, et sur le faîte de la tour, la statue d'un guerrier semblait en vedette.
« Es-tu jamais entré dans un labyrinthe ?» demanda Stelio à son ami.
« Jamais, » répondit-elle.
Ils s'attardèrent à examiner ce jeu illusoire combiné par un jardinier ingénieux pour l'amusement des dames et des sigisbées, autant des paniers et des gilets fleuris. Mais l'âge et l'abandon l'avaient rendu sauvage et triste, lui avaient enlevé tout caractère de grâce et de régularité, l'avaient changé en un épais fourré d'un brun jaunâtre, plein d'inextricables détours, où les rayons obliques du couchant rougeoyaient si fort que, çà et là, les buissons ressemblaient à des bûchers qui brûleraient sans fumée.
« Il est ouvert, » dit Stelio, qui, en s'appuyant sur la grille, avait senti qu'elle cédait. « Tu vois ?» Il poussa le fer rouillé qui grinça sur ses gonds disjoints, puis il franchit le seuil et fit quelques pas en avant.
« Où vas-tu ?» lui demanda sa compagne avec une frayeur instinctive, en allongeant la main pour le retenir.
« Ben, tu ne veux pas que nous entrions ?»
Elle était perplexe, mais le labyrinthe les attirait par son mystère illuminé de cette femme profonde.
« Et si nous allions nous perdre ? Oh, tu vois qu'il est petit, nous retrouverons facilement la porte. Et si nous ne la retrouvons pas ?»
Et il rit de cette crainte puérile. « Ben, nous resterons à tourner pendant toute l'éternité. »«
Ben non, non, il n'y a personne dans le voisinage. Oh non, allons-nous-en. »
Elle essaya de le ramener en arrière, mais il s'en défendit. Recula dans le sentier et disparut tout à coup en riant.
« Stelio, Stelio !»
Elle ne le voyait plus, mais elle entendait son rire sonner parmi l'enchêtrement sauvage.
« Reviens, reviens !»«
Non, non, viens me chercher, toi !»«
Reviens, Stelio, tu vas te perdre !»«
Oh, je trouverai Ariane !» À ce nom, elle sentit son cœur bondir, puis se serrer, palpiter confusément. N'était-ce pas ainsi que le premier soir, il avait appelé Donatella? Ne l'avait-il pas appelé Ariane là-bas, sur l'eau, quand il était assis aux genoux de la jeune fille? Elle se souvenait des paroles mêmes. Ariane a un don divin par où son pouvoir dépasse toute limite. Elle se souvenait de l'accent, de l'attitude, du regard. Une angoisse tumultueuse la bouleversa, offusqua sa raison, l'empêcha de reconnaître dans les paroles de son ami un jeu du hasard,
l'insouciance d'une gaieté spontanée. La terreur qui se cachait au fond de son amour désespéré s'insurgea, la maîtrisa, l'aveugla misérablement. Le petit fait accidentel prit un aspect de cruauté et de dérision. Elle entendait encore ce rire sonner parmi l'enchevêtrement sauvage. Stelio ! Dans une hallucination frénétique, elle cria comme si elle le voyait enlacé par l'autre, arraché de ses bras pour jamais. Stelio ! Cherche-moi ! Répondit-il en riant, invisible. Elle s'élança dans le dédale pour le retrouver. Elle alla droit vers le voilier et le rire, emporté par son élan. Mais le sentier se tordit. Une muraille de buis obscurs se dressa devant elle et l'arrêta impénétrable. Elle suivit la courbe trompeuse, et un détour succédait à l'autre, et tous les détours étaient semblables, et les circuits paraissaient n'avoir pas de fin. « Cherche-moi !» répéta la voix à travers les haies vives, lointaines. « Mais où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu me vois ?» Elle se mit en quête de trouées pour y plonger son regard. Elle n'apercevait que l'épaisse trame des branches et la rougeur du crépuscule qui d'un côté les allumait toutes tandis que de l'autre l'ombre les noircissait. Les buis et les charmilles étaient entremêlés, les feuilles toujours vertes se confondaient avec les feuilles mourantes, les plus sombres avec les plus pâles, dans un contraste de vigueur et de langueur, dans une ambiguïté qui augmentait l'égarement de la femme haletante. « Je me perds, viens au-devant de moi !» De nouveau, le rire juvénile sonna dans le fourré. « Ariane, Ariane, le fil !» Maintenant, le son venait de la partie opposée, la frappait au rein comme un coup d'estoc. « Ariane !» Elle revint en arrière, courut, tourna, essaya de passer à travers la muraille, écarta le feuillage, cassa une branche. Elle ne vit rien que le dédale multiple et partout le même. Enfin, elle entendit un pas si proche qu'elle crut l'avoir aux épaules et elle tressaillit. Mais elle se trompait. Elle explora encore une fois la prison végétale où elle était enfermée, prêta l'oreille, attendit. Elle ne perçut que son propre souffle et la pulsation de ses poignets. Le silence était devenu très profond. Elle regarda le ciel qui se courbait immense et pur sur les deux rameuses parois qui la retenaient prisonnière. Il semblait qu'il y eût au monde que cette immensité et cette étroitesse, et elle ne réussissait pas à séparer par sa pensée la réalité de ce lieu et l'image de son supplice intérieur. L'aspect naturel des choses et cette espèce de vivante allégorie créée par sa propre angoisse. « Stelio, où es-tu ?» Pas de réponse. Elle écouta, elle attendit vainement. Les secondes lui semblaient des heures. « Où es-tu? J'ai peur !» Pas de réponse. Mais où donc s'en était-il allé? Est-ce qu'il avait retrouvé la sortie? Est-ce qu'il l'avait laissée là, toute seule? Voulait-il continuer ce jeu cruel? Une envie furieuse de hurler, de sangloter, de se jeter par terre, de se débattre, de se faire mal, de mourir, assaillit l'insensé. De nouveau, elle leva les yeux vers le ciel muet. Les cibes des hautes charmilles rougeoyaient comme les sarments lorsqu'ils ne jettent plus de flammes et vont se réduire en cendres. « Je te vois !» dit à l'improviste la voix rieuse dans l'ombre basse, tout près. Elle sursauta, elle se pencha dans l'ombre. « Mais où es-tu ?» Il rit entre les feuilles sans se montrer comme un faux nosaguet. Ce jeu l'excitait, et tous ses membres s'échauffaient et se déliaient par l'exercice de leur agilité. Et le mystère sauvage, le contact du sol, l'odeur de l'automne, la singularité de cette aventure imprévue, l'effarement de cette femme, la présence même des déités marmoréennes, mêlaient à son plaisir corporel une illusion de poésie antique.
Où es-tu? Oh, non, non, ne joue plus ainsi, ne ris plus de cette façon. Allez, assez, assez.
Il s'était glissé à quatre pattes dans le buisson, tête nue. Sous ses genoux, il sentait les feuilles mortes, la mousse molle. Et comme il respirait parmi les branches et palpitait au milieu d'elles, et avait tous les sens pris par ce plaisir, la communion de sa vie avec la vie végétale se fit plus étroite, et l'enchantement de son imagination renouvela dans cet enchevêtrement de passages incertains l'industrie du premier ouvrier d'elle, le mythe du monstre né de Pasiphae et du taureau, la légende attique de Thésée en Crète. Tout ce monde devint réel pour lui. Sous le rouge soir d'automne, il se transfigurait, selon les instincts de son sang et les souvenirs de son esprit, en une de ces formes ambiguës, moitié animale et moitié divine, en un de ces génies agrestes dont la gorge se gonflait des mêmes glandes qui pendent au cou des chèvres. Une lascivité joyeuse lui suggérait des actes et des gestes étranges, des surprises, des embûches, lui représentait l'allégresse d'une poursuite, d'une poussée à terre, d'une rapide union sur la mousse ou contre le buis inculte. Alors il désira une créature qui lui ressemblerait, une poitrine fraîche à laquelle il pourrait communiquer son hilarité, deux jambes agiles, deux bras prêts à la lutte, une proie à capturer, une virginité à forcer, une violence à accomplir. Et Donatella, aux reins arqués, lui réapparut.
« Assez, Stelio, je n'ai plus de force, je vais tomber par terre. »
Là, Foscarina sentant le bord de sa robe, tiré par une main qui passait à travers le buisson, jeta un cri. Elle se pencha, entrevit dans l'ombre parmi les rameaux la face du faune rieur. Ce rire éclata sur son âme sans l'illuminer, sans rompre l'horrible peine qui l'étreignait. Sa souffrance devint même plus aiguë par le contraste entre cette joie toujours nouvelle et sa perpétuelle inquiétude, entre cet oubli léger et le poids de son fardeau. Elle reconnut plus clairement son erreur et la cruauté de la vie qui plaçait là, dans le lieu où elle souffrait, la figure de l'autre. À peine eut-elle, en se penchant, aperçu la face du jeune homme, qu'aussitôt, avec la même évidence, elle aperçut celle de la cantatrice qui se penchait comme elle, imitait son acte à la façon de l'ombre qui répète un geste sur une cloison éclairée. Tout se brouilla dans son esprit, et sa pensée ne réussit pas à mettre un intervalle entre la réalité et cette image. L'autre se surposa, se superposa à elle-même, l'opprima, la supprima.
« Non, lâche-moi, lâche-moi, je ne suis pas celle que tu cherches. »
Sa voix était si changée que Stelio interrompit son rire et son jeu. Il retira le bras, il se mit debout. Elle cessa de le voir. La rameuse muraille se dressait entre eux, impénétrable.
« Emmène-moi dehors, je ne me soutiens plus, je n'ai plus de force, je souffre. »
Il ne trouvait pas les paroles pour l'apaiser, pour la réconforter. La simultanéité de son récent désir et de cette divination soudaine l'avait frappé profondément. « Bon, alors attends, attends un peu, je tâcherai de retrouver la sortie. Oh, j'appellerai quelqu'un. » Mais tu t'en vas. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il n'y a aucun danger. Et tout en parlant ainsi pour la rassurer, il comprenait l'inutilité de ce qu'il disait. Le désaccord entre cette risible aventure et l'obscure émotion née d'une cause bien différente. Et lui aussi, maintenant, il avait en lui-même l'étrange ambiguïté par où ce petit événement se présentait avec deux aspects confondus. Car, sous son inquiétude, persistait une envie de rire qu'il réprimait, si bien que cette souffrance lui était nouvelle comme certaines angoisses qui naissent de l'extravagance des rêves. « Ne t'en va pas » suppliait-elle sous l'empire de son hallucination. « Là, au tournant, nous nous rencontrerons peut-être. Essayons, prends-moi les mains. » Par une trouée, il lui prit les mains et il tressaillit en les touchant tant elles étaient froides. « Foscarina, qu'as-tu ? C'est vrai que tu ne te sens pas bien. Attends, je vais enfoncer la haie. » Il entreprit de forcer le fourré, brisa quelques branches, mais l'entrelac résistait, très robuste. Il se blessa inutilement. « Bon, c'est impossible. Crie, elle rappelle quelqu'un. » Il cria dans le silence. Les cimes des hautes parois végétales s'étaient éteintes. Mais dans le ciel supérieur se répandait une rougeur pareille à une réverbération de bois incendiés sur l'horizon. Une troupe de canards sauvages passait, rangés en triangle, les coups tendus, noirs. « Laisse-moi m'en aller, je retrouverai la tour facilement, j'appellerai, on entendra mes cris. Non, non !» Elle entendit qu'il s'éloignait, suivit le bruit de ses pas, s'égara de nouveau dans les méandres et se trouva de nouveau seule et affolée. Elle s'arrêta, elle attendit, elle prêta l'oreille. Elle regarda le ciel, vit le grand vol triangulaire disparaître dans le lointain. Elle perdit le sentiment de la durée. Les secondes lui semblèrent des heures. « Stelio, Stelio !» Elle n'était plus capable d'autres efforts pour vaincre le désordre de ses nerfs exaspérés. Elle sentait venir la crise extrême de la folie, comme on sent le tourbillon qui s'approche. « Stelio !» Il entendait cette voix d'angoisse et continuait anxieusement sa recherche par les chemins sinueux qui tantôt le rapprochaient et tantôt l'éloignaient de la tour. Le rire s'était glacé dans son cœur. Toute son âme tremblait jusqu'aux racines. Chaque fois que lui arrivait à l'oreille son nom proféré par cette invisible agonie, et la graduelle diminution de la lumière lui offrait l'image du sang qui coule, de la vie qui défaille. « Je suis là, je suis là !» Un des sentiers le conduisit enfin à la place où s'élevait la tour. Il monta furieusement l'escalier en limaçon. Parvenu au sommet, il eut le vertige, s'accrocha aux balustres, ferma les yeux, les rouvrit. Il aperçut à l'horizon une longue zone de feu, le disque de la lune sans rayons, la plaine semblable à un marais livide, le labyrinthe au-dessous de lui avec ses buis noirâtres, avec les taches qui faisaient les charmilles, étroit, malgré ses interminables circonvolutions, ayant l'aspect d'un édifice démantelé et envahi par les broussailles, semblable à une ruine et à un hallier sauvage et lugubre. « Arrête-toi, arrête-toi, ne cours pas ainsi. Quelqu'un m'a entendu, un homme vient. Je le vois qui vient, attends, arrête-toi !» Il regardait cette femme qui, comme une démente, tournait en courant par les sentiers obscurs et trompeurs, comme une créature condamnée à un vain supplice, à une fatigue inutile mais éternelle, sœur des martyrs fabuleuses, arrête-toi! Il semblait qu'elle n'entendît pas ou qu'il ne pût maîtriser son agitation fatale et que lui-même ne pût la secourir, mais qu'il dut rester là, témoin de ce châtiment terrible. Le voici! Un des gardiens avait entendu les appels et s'était approché. Il franchissait le seuil. Stelio le rencontra au pied de la tour. Ils allèrent ensemble à la recherche de l'égaré. Cet homme connaissait le secret du labyrinthe. Stelio prévint son bavardage et ses plaisanteries en le confondant par sa générosité. « A-t-elle perdu le sens? A-t-elle fait une chute ?» L'ombre et le silence lui semblaient sinistres, l'épouvantaient. Appelée, elle ne répondait rien, et le bruit de ses pas ne se faisait plus entendre. Déjà, le lieu était nocturne, sous l'humidité qui descendait du ciel violâtre. « Moi, la trouverai-je évanouie par terre ?» Il tressaillit en voyant soudain, à un détour, apparaître la figure mystérieuse, la face pâle qui attirait toute la lumière du crépuscule, splendide comme une perle, les yeux larges et fixes, les lèvres serrées et rigides. Ils repartirent pour Dolo, reprirent la même route le long de la Brenta. Elle ne parla pas, n'ouvrit pas une seule fois la bouche, ne répondit à aucune question, comme s'il lui eût été impossible de serrer les dents. Allongée au fond de la voiture, enveloppée dans son manteau jusqu'aux lèvres traversées par instants de frissons violents comme des sursauts, couverte d'une lividité pareille à celle des fièvres paludéennes. Son ami lui prenait les doigts, les gardait entre les siens pour les réchauffer, mais inutilement. Ils étaient inertes, semblaient n'avoir plus de vie. Et les statues passaient, passaient. Le fleuve coulait sombre entre ses berges, sous un ciel de violette et d'argent, où montait la pleine lune. Une barque noire descendait le courant, allée au bout d'une corde par deux chevaux gris qui marchaient sur l'herbe de la rive avec de sourdes foulées, conduit par un homme qui s'en allait sifflant d'un air paisible. Et sur le pont de la barque, un tuyau fumait comme la tourelle d'une cheminée sur le toit d'une chaumière. Et dans la cale, une lanterne répandait sa lumière jaune et l'air du soir s'imprégnait de l'odeur du repas. Et de-ci de-là, dans la campagne noyée, les statues passaient, passaient. C'était une lande stygienne, une vision de l'Hadès, un pays d'ombre, de brumes et d'eau. Toutes les choses s'évaporaient, s'évanouissaient comme des esprits. La lune enchantait et attirait la plaine comme elle enchante et attire la mer. De l'horizon, elle buvait la grande humidité terrestre avec une bouche insatiable et silencieuse. Partout brillaient des mares solitaires. On voyait dans un lointain indéfini miroiter de petits canaux entre les fils inclinés des saules. D'heure en heure, la terre semblait perdre sa solidité et devenir liquide. Le ciel pouvait y mirer sa mélancolie que reflétaient d'innombrables miroirs immobiles. Et de-ci, de-là, sur la rive décolorée, pareils aux mânes d'un peuple disparu, les statues passaient, passaient. Pensez-vous souvent à Donatella, Valle, Stelio ? Demanda tout à coup la Foscarina, après un long intervalle, où ils n'avaient entendu l'un et l'autre que la cadence de leurs pas sur le quai des Verriers, illuminée par la splendeur innombrable des œuvres frêles qui remplissaient les vitrines des boutiques alignées. Sa voix fut réellement comme un ver qui se fêle. Stelio s'arrêta, de l'air d'un homme qui se trouve en face d'une difficulté imprévue. Son esprit errait à travers l'île rouge et verte de Murano, toute fleurie de ses fleurs hyalines, dans la pauvreté désolée qui lui faisait perdre jusqu'au souvenir de l'heureux temps où les poètes la chantèrent comme un séjour de nymphes et de demi-dieux. Il pensait aux jardins illustres où Andrea Navagero, le cardinal Bembo, l'Arétin, Haydée et le docteur Coeur rivalisaient d'élégance en des dialogues platoniciens, Lauris ou Bumbra. Il pensait aux monastères voluptueux comme des gynécées, habités par de petites nonnes vêtues de camelots blancs et de dentelles, au front enguirlandé de boucles, aux seins découverts selon l'usage des honnêtes courtisanes, adonnés aux secrets amours très recherchés par les patriciens licencieux, nommés des doux noms de Concilia, Soranzo, Cipriana, Morosini, Zanetta, Balbi, Beatrice Fallier, Genia Muscliera, pieuse maîtresse de la civité. Son rêve ondoyant s'accompagnait d'une ariette qu'au musée il avait entendu sourdre par gouttelettes sonores d'un petit appareil métallique mis en mouvement au moyen d'une clé dissimulée sous un jardinet de verre où des amants parés de marguerites dansaient autour d'une fontaine en calcédoine. C'était une mélodie indistincte, un air de danse oublié, auquel manquaient plusieurs notes, rendues muettes par l'usure et par la poussière, mais néanmoins si expressif qu'il ne pouvait plus le chasser de son oreille. Et pour lui, maintenant, toutes les choses d'alentour avaient la fragilité et la mélancolie lointaine de ces figurines qui dansaient au son de cette musique plus lente qu'une eau qui suinte. L'âme étiolée de Murano avait chuchoté dans ce vieux jouet. À la question soudaine, l'Ariette se tut. Les imaginations se dissipèrent. L'enchantement de la vie d'autrefois s'évanouit. L'esprit vagabond de Stelio se replia et se contracta, non sans regret. Il sentit palpiter à son liane une âme vivante qu'il devait blesser inévitablement. Il regarda son amie. Elle cheminait le long du canal, entre le vert de l'eau maladive et l'iridescence des vases délicats, sans agitation, presque calme. À peine son manteau amaigri tremblait-il un peu entre le bord de la voilette et le collet de Sibylline. Oui, quelquefois, répondit-il après une minute d'hésitation, répugnant au mensonge et comprenant la nécessité de rehausser cet amour par-dessus les tromperies et les prétentions vulgaires, si bien qu'il demeura pour lui une cause de force et non d'affaiblissement, un libre accord et non une chaîne pesante. Elle marchait la première et elle ne chancelait pas. Mais elle avait perçu le sentiment de tous ses membres, avec ce terrible battement de cœur qui se répercutait depuis sa nuque jusqu'à ses talons comme sur une seule corde. Elle ne voyait plus rien. Mais à son côté, elle sentait la présence de l'eau fascinatrice. Sa voix est inoubliable, reprit après une pause, ayant recueilli son courage. Elle est d'une puissance inouïe. Dès le premier jour, je pensais que la cantatrice pourrait être un merveilleux instrument pour mon œuvre. Je voudrais qu'elle consentît à chanter les parties lyriques de ma tragédie, les odes qui s'élèvent des symphonies, pour se résoudre à la fin en figure de danse entre les deux épisodes. Déjà la Tanagra consent à danser. Mais j'ai confiance dans vos bons offices, ma chère amie, pour obtenir aussi le consentement de Donatella de Reale.
Ainsi, la trinité dionysiaque serait reconstituée d'une manière parfaite sur la scène nouvelle pour la joie des hommes.
En parlant, il s'aperçut que ces phrases avaient sonné faux, que sa désinvolture contrastait trop crûment avec l'ombre mortelle répandue sur la face voilée de l'amante. Malgré lui, il avait exagéré l'aisance lorsqu'il avait affecté de ne voir dans la cantatrice qu'un simple instrument d'art, une pure force idéale qu'il projetait d'attirer dans le cercle de son entreprise magnifique. Malgré lui, troublé par la souffrance qui cheminait à son flanc, il avait légèrement incliné vers la dissimulation. Certes, ce qu'il avait dit était la vérité, mais c'était une autre vérité que son amante lui demandait. Il s'interrompit tout à coup, ne pouvant supporter davantage le son de ses propres paroles. Il sentit qu'à cette heure, entre l'actrice et lui, l'art n'avait aucune résonance, aucune valeur vivante. Une autre force les dominait, plus impérieuse et plus trouble. Le monde créé par l'intelligence était inerte, comme ces vieilles pierres sur lesquelles il cheminait. La seule puissance véritable et formidable, c'était le poison qui circulait dans leur sang humain. La volonté de l'une disait « Je t'aime, je te veux tout entier, pour moi seul, âme et corps. » Et la volonté de l'autre disait « Je veux que tu m'aimes, que tu me serves, mais dans la vie, j'entends ne renoncer à aucune des choses qui peuvent exciter mon désir. » La lutte était atroce et inégale. Tandis qu'elle se taisait, hâtant le pas involontairement, il se préparait à affronter l'autre vérité. « Ah oui, je comprends, ce n'était pas cela que vous vouliez savoir. »
« Oh non, non, ce n'était pas cela. Eh bien ?»
Elle se tourna vers lui avec une sorte de violence convulsive qui lui rappela les fureurs d'une soirée lointaine et le cri affolé. « Va, cours, elle t'attend !» Sur ce quai tranquille, entre cette eau paresseuse et ces vers délicats, dans cette île de l'ennui, la face du danger lui réapparut fulgurante. Mais un fâcheux, interrompant leur marche, leur offrit de les conduire à la fournaise la plus proche.
« Entrons, entrons, » dit-elle, prompte à suivre l'homme et à s'enfoncer dans le passage, comme dans un refuge pour éviter la ronde de la rue, la lumière profane du jour sur sa perdition.
Le lieu était humide, taché de salpêtre, plein d'une odeur saumâtre comme un antre marin. Ils traversèrent une cour encombrée de bois à brûler, franchirent une porte vermoulue, arrivèrent au séjour du feu, se trouvèrent enveloppés par la brûlante haleine, s'arrêtèrent devant le grand autel incandescent qui donnait à leurs prunelles un éblouissement douloureux, comme si tout à coup leurs cils se fussent enflammés.
Disparaître, être englouti, ne pas laisser de traces, rugissait le cœur de la femme ivre de destruction. En une seconde, ce feu pourrait me dévorer, comme un sarment, comme un fétu de paille.
Et elle s'approchait des bouches ouvertes par où l'on voyait, fluide, plus resplendissante que le midi d'été, les flammes s'enroulaient au pot de terre où fondait encore informe le minerai que les ouvriers, postés alentour derrière les pare-feu, atteignaient avec un tube de fer pour le façonner par le souffle de leurs lèvres et par les outils de leur art. Vertu du feu, pensait l'animateur, soustraite à son inquiétude par la miraculeuse beauté de cet élément qui lui était familier comme un frère, depuis le jour où il avait trouvé la mélodie révélatrice. Ah, pouvoir donner à la vie des créatures qui m'aiment les formes de la perfection à laquelle j'aspire, pouvoir fondre toutes leurs faiblesses dans la plus haute ferveur et faire d'elles une matière obéissante, où j'imprimerai les commandements de ma volonté héroïque à les images de ma poésie pure. Pourquoi, mon ami, pourquoi ne voulez-vous pas être la divine statue changeante que modèlerait mon esprit, l'œuvre de foi et de douleur, par laquelle notre vie pourrait surpasser notre art? Mais pourquoi sommes-nous si près de ressembler aux médiocres amants qui se lamentent et maudissent? Lorsque j'entendis de vos lèvres la parole admirable, je puis cette chose que l'amour ne peut pas, mais je crois que véritablement vous pouviez me donner plus que l'amour. Les choses que l'amour peut et celles qu'il ne peut pas, il faut les pouvoir toutes et toujours afin d'égaler ma nature insatiable. Le travail chauffait autour de la fournaise. Au bout des cannes à souffler, le verre fondu se gonflait, serpentait, devenait argentin comme un petit nuage, resplendissait comme la lune, éclatait, se divisait en mille fragments ténus, crépitants, rutilants, plus fins que ces fils qu'on voit le matin dans les forêts, tendus entre deux branches. Les ouvriers façonnaient les coupes harmonieuses, chacun obéissant dans sa besogne à un rythme qui lui était propre, engendré par la qualité de la matière et par l'habitude des mouvements aptes à la maîtriser. Les servants déposaient une petite poire de pâte ardente aux points indiqués par les maîtres, et la poire s'allongeait, se tordait, se transformait en une anse, en un bord, en un bec, en une tige, en un pied. Peu à peu, sous les outils, la rougeur de la pâte se dissipait, et la coupe naissante, fixée au bout de la canne, était de nouveau exposée à la flamme, puis en était retirée, docile, ductile, sensible aux touches les plus délicates qui l'ornaient, qui l'affinaient, qui la rendaient conforme au modèle transmis par les aïeux ou à l'invention libre du nouveau créateur. Extraordinairement légers et agiles étaient les gestes humains autour de ces élégantes créatures du feu, du souffle et du fer, comme les gestes d'une danse silencieuse. Dans la perpétuelle ondulation de la flamme, la figure de la Tanagra apparut à l'animateur pareille à une salamandre. La voix de Donatella lui chanta la puissante mélodie. Aujourd'hui encore, c'est moi-même qui te l'ai donné pour compagne, pensait la Foscarina. C'est moi qui l'appelais entre nous, qui évoquais sa figure, alors que peut-être ta pensée était ailleurs, et c'est moi qui te l'ai amené à l'improviste, comme en cette nuit de délire. C'était vrai. Depuis l'instant où le nom de la cantatrice avait résonné contre la cuirasse du vaisseau, prononcé pour la première fois par les lèvres de son ami dans l'ombre que produisait le flanc du colosse armé sur les eaux crépusculaires, depuis cet instant-là, elle avait inconsciemment exalté dans l'esprit de Stelio la nouvelle image, l'avait nourrie de sa jalousie même, de sa peur même, l'avait fortifiée, magnifiée de jour en jour, l'avait enfin éclairée de certitude. Plus d'une fois, au jeune homme peut-être oublieux, elle avait répété « Elle t'attend !» Et plus d'une fois, à l'imagination du jeune homme, insouciant peut-être, elle avait représenté cette attente lointaine et mystérieuse. Telle dans la nuit dionysiaque, l'incendie de Venise avait allumé d'un même reflet ses deux faces juvéniles, telle maintenant les allumait sa passion. Et il ne brûlait que parce qu'elle les voulait brûlants. Sans doute, pensait-elle, à cette minute même, il est possédé par l'image où il la possède. Mon angoisse ne fait qu'exciter son désir. C'est une jouissance pour lui d'aimer l'autre sous mes yeux désespérés.
et son supplice n'avait pas de nom. Car elle voyait s'alimenter de son propre amour, cet autre amour qui la faisait mourir. Elle sentait sa propre ardeur l'envelopper comme de l'atmosphère hors de laquelle il n'aurait pu vivre.
Oui, dès que le vase est façonné, on le met dans la chambre de la fournaise pour lui donner la trempe, répondait l'un des maîtres à une question d'Efrenna. Si on l'exposait tout de suite à l'extérieur, il se briserait en 1000 morceaux.
De fait, on apercevrait par Nouvreau, réuni dans un réceptacle qui était le prolongement du four à fondre, les vases brillants, encore esclaves du feu, encore sous son empire.
« Ils sont là depuis 10 heures, » disait le verrier en indiquant la gracieuse famille.
Ensuite, les belles créatures frêles abandonnaient leur père, se détachaient de lui pour toujours. Elles se refroidissaient, devenaient de froides gemmes, vivaient de leur vie nouvelle dans le monde, entraient au service des hommes voluptueux, rencontraient des périls, suivaient les variations de la lumière, recevaient la fleur coupée ou la boisson enivrante.
C'est la nostra gran Foscarina, demanda tout bas à Stelio le petit homme aux yeux rouges, qui avait reconnu l'actrice au moment où, suffoquée, elle relevait sa voilette.
Saisi d'une émotion ingénue, le maître verrier fit un pas vers elle et s'inclina respectueusement.
« Un soir, madame, vous m'avez fait trembler et pleurer comme un enfant. Me permettez-vous, en mémoire de cette soirée, que je ne pourrai oublier tant que je vivrai, de vous offrir un petit travail sorti des mains du pauvre Segusso ?»«
Vous êtes un Segusso ?» s'écria le poète en se penchant avec vivacité vers ce gringalet pour le bien regarder en face. « Un Segusso de la grande famille des verriers, un vrai de la bonne race ?»«
Oui, pour vous obéir, seigneur. »«
Un prince, alors ?»«
Si, un arlequin finto principe. »«
Mais vous connaissez tous les secrets de l'art, n'est-ce pas ?» L'homme de Murano fit un geste mystérieux qui évoqua l'occulte science des ancêtres dont il s'affirmait le dernier héritier. Les autres verriers, près des ouvreaux, avaient interrompu le travail et souriaient, tandis que les coupes se décoloraient au bout des cannes.
« Donc, parona mia, se deniera de acetar ?»
On l'aurait cru sorti d'un panneau de Bartolomeo Vivarini, frère d'un de ses fidèles agenouillés sous le manteau de la Vierge à Santa Maria Forriosa. Courbé, décharné, desséché, comme affiné par le feu, aussi fragile que si sa peau eût été recouverte d'ossature de verre, avec des boucles tares et grises, un nez filé et rigide, un menton pointu, des lèvres très minces, d'où partaient aux angles les plis de la finesse et de la tension, avec des mains souples, agiles et prudentes, rougies de brûlures cicatrisées, exprimant par leur forme l'adresse et l'exactitude habilités aux gestes conducteurs des belles lignes dans la matière sensible, vrais instruments de cet art délicat, rendu parfaite chez l'héritier par l'exercice ininterrompu durant toute une série de générations laborieuses.
« Oui, vous êtes un Segusso, » dit Efrena qui l'examinait. « Vos mains sont la preuve de votre noblesse. »
Le verrier les regarda en souriant, le dos et la paume.
« Léguez-les par testament au musée de Murano, avec votre canne à souffler.
Oui, pour qu'on les mette en compote comme le cœur de Canova et Vrillotte de Fadou. »
Le rire franc des travailleurs courut autour de l'autel ardent, et les coupes naissantes oscillèrent au bout des cannes, roses et bleuâtres comme les corymbes de l'hortensia, commence à changer de couleur.
Mais la preuve décisive, ce sera votre verre, voyons-le.
L'actrice n'avait rien dit parce qu'elle redoutait l'altération de sa voix. Mais toute sa grâce affable, soudainement réapparue à fleur de sa tristesse, avait accepté le don et récompensé le donateur. « Voyons, c'est Gousseau !» Le petit homme gratta sa tempe moite avec un geste de perplexité, flairant le bon connaisseur. Oh, « je devine peut-être, » continua Stelio en s'approchant de la chambre à recuire et jetant un regard d'élection sur les vases réunis. « Si c'est celui-là !» Et voilà que par sa présence, il avait apporté au milieu du travail habituel une animation insolite, la joyeuse ardeur de jeu que, sans cesse, il poursuivait dans sa propre vie. Toutes ces âmes simples, après avoir souri, se passionnaient pour l'épreuve. Elles attendaient le choix avec l'anxiété curieuse avec laquelle on attend le résultat d'un pari. Elles avaient hâte de faire de la comparaison entre la subtilité du maître et celle du juge. Et ce jeune homme inconnu, qui se trouvait là comme dans un lieu familier, et qui savait se mettre au niveau des hommes et des choses avec une sympathie si spontanée et si rapide, n'était déjà plus un étranger pour eux. « Si c'est celui-là !» La Foscarina se sentait attirée dans le jeu et comme contrainte d'y prêter son attention, subitement exempte d'aigreur et de rancune devant la félicité de son ami. Là aussi, sans nul effort, il avait enflammé de beauté et de passion les instants fugitifs, communiqué la contagieuse ferveur de sa vitalité aux personnes présentes, soulever les esprits dans une sphère supérieure, réveiller chez ces artisans déchus l'antique orgueil de leur art. Pour quelques instants, l'harmonie d'une ligne pure était devenue le centre de leur monde. Et l'animateur se penchait vers les vases réunis comme si, du choix qu'il allait faire, eût dépendu la fortune de ce petit verrier perplexe. « Oui, c'est vrai, toi seul sais vivre, » lui disait-elle dans un regard de tendresse. « Il est juste que tu aies tout. Je serai contente de te voir vivre, de te voir jouir, et fais de moi ce qu'il te plaira. » Elle souriait en s'anéantissant. Elle lui appartint comme une chose tenue dans le poing, comme une bague au doigt, comme un gant, comme un vêtement, comme une parole qu'on peut dire ou ne pas dire, comme un vin qu'on peut boire ou verser à terre. « Eh bien, c'est Gousseau ? » s'écria-t-il impatient de l'hésitation qui se prolongeait. L'homme le regarda dans les prunelles. Puis, retrouvant son assurance, il se confia à son instinct natif. Entre tous ses vases, il y en avait cinq sortis de ses mains. Il se distinguait des autres comme s'ils eussent appartenu à une espèce différente. Mais lequel des cinq était le plus beau? Les ouvriers inclinaient vers lui leur visage, tout en exposant au feu les coupes fixées au bout des cannes pour les empêcher de se refroidir. Et les flammes, claires comme celles que donnent les feuilles crépitantes du laurier, ondoyaient de l'autre côté des parafeux, semblant tenir les hommes captifs par les fers de l'art. « Oui, oui !» s'écria Stelio, en voyant le maître verrier extraire avec des précautions infinies le vase de son choix. « Le sang ne ment point. Elle est digne de la Dogares Foscarina, la coupe que tu lui donnes. » Le maître verrier, tenant la tige de la coupe entre le pouce et l'index, souriait devant l'actrice, le visage éclairé par cette chaude louange. Son air de subtilité et de sagacité rappelait à l'esprit le petit renard d'or qui court sur la queue du coq dans les armoiries de Murano. Ses paupières, rougies par les reflets violents, battaient sur son regard tourné vers l'œuvre fragile qui brillait encore dans sa main avant de partir. Et en ses doigts, caressants et en toute son attitude, se révélait la faculté héréditaire de sentir la difficile beauté des lignes simples et des fines colorations. Elle était comme une de ces fleurs miraculeuses qui éclosent sur des arbustes maigres et tordus, la coupe tenue par l'homme voûté qui en était le créateur. Très belle en vérité cette coupe et mystérieuse comme les choses naturelles, conservant dans sa concavité la vie du souffle humain, rivale des eaux et des cieux par sa transparence, pareille en sa frange violette aux méduses errantes sur les mers, simple, pure, sans autre ornement que cette frange marine, sans autre membre que son pied, sa tige et sa lèvre. Et pourquoi elle était si belle, personne n'aurait pu le dire, ni en un mot ni en mille. Et son prix était nul ou incalculable selon la qualité de l'œil qui la contemplait.